Quand je suis arrivé dans ce quartier, je connais pas du tout. Je connais même pas une personne. Mais ici, c'est le départ de mon rêve.
Si vous mangez dans un restaurant chinois, je vous conseille de manger à la chinoise. Voilà. On commande toujours certains plats, on partage avec ses amis. Voilà. Comme si vous mangez à la française, on peut seulement manger un seul plat.
D'accord.
Ouais, pour nous, c'est.
C'est pas possible.
On préfère de partager, de manger, de goûter plusieurs saveurs. On choisit quel plat on aime.
Du coup, on les mêle et c'est le mélange des saveurs qui fait que c'est.
Voilà, exactement, c'est ça.
Le goût du monde. Clémence de Navis.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Ni hao. Nous sommes aujourd'hui dans les vapeurs et le sucré salé, les bao, les baguettes, les momo, les xianlongbo, dans les grandes gourmandises et la délicatesse, cinq parfums pour nous guider cap sur la Chine, mais ici, la Chine à Paris et en Île-de-France, où se trouve la plus importante communauté chinoise d'Europe. Un siècle d'histoire et une nouvelle génération à l'énergie. Mais si vous saviez, du piment, du gingembre, assaisonner cette génération, des idées, du talent, des envies à faire voler en éclats les clichés et les a priori en cuisine et en magazine. Bonjour Céline.
Bonjour Clémence.
Céline Chiang, Huihui.
Huihui, en mandarin.
Votre vrai prénom. Vous êtes la fondatrice des restaurants Petit et Gros Bao à Paris et la tête pensante aussi de Tie Tie, qui est un magazine.
C'est ça.
Papier. Que veut dire Tie Tie ?
Alors, Tie Tie, ça veut dire saison en mandarin. Et on a choisi le terme saison parce que, un peu comme la mode, on aime bien faire défiler un peu les idées et les tendances en fonction du temps. Et en fait, en fonction des saisons, beaucoup de choses changent. Et du coup, on avait envie d'aborder des sujets particuliers en fonction de chaque saison. Et donc là, on sort le premier numéro, donc la collection Printemps-Été, qui va vraiment s'appeler Printemps-Été, à l'occasion de la réouverture des restaurants le 9 juin. Et donc dans ce magazine, l'idée c'était vraiment en fait d'être dans la continuité de ce qu'on faisait avec nos restaurants, c'est-à-dire démocratiser. On a commencé à démocratiser la cuisine chinoise et avec ce magazine, l'idée c'est d'aller encore plus loin autour de la Chine, bien sûr, mais aussi autour d'influences asiatiques et en fait vraiment de partager tout ce qu'on aime, c'est-à-dire
s'ouvrir grand les yeux sur la culture chinoise. La culture chinoise, c'est évidemment ce qu'on savoure, mais c'est aussi ce qu'on regarde, ce qu'on sent, ce qu'on observe, comment on s'habille, comment on décore ces restaurants, c'est tout ça.
C'est cet ensemble-là. Et puis c'est aussi le cinéma, c'est la littérature, c'est la mode, c'est la cuisine. En fait, c'est tous ces éléments qui font partie intégrante d'une culture et c'est ça qu'on a envie de transmettre.
C'était pour vous important de rappeler ça ? Il faut encore le rappeler que cette culture chinoise est une culture riche, délicate, passionnante ?
Oui, je pense que aujourd'hui, la culture chinoise est pas forcément très connue. En tout cas, dans les médias, je trouve que on a un visage de la politique et de l'économie. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui font l'histoire de ce pays. Et voilà, les éléments culturels en font partie. Et c'est vrai que le soft power chinois est pas encore, à part au niveau économique, on ne le connaît pas trop. Et là, l'idée, c'était vraiment de le partager.
Quand vous dites soft power, c'est une expression anglaise.
Oui.
Qu'est-ce que ça voudrait dire, soft power?
Alors, je pense que c'est l'influence culturelle à la fois dans les modes de consommation, de vie, d'état d'esprit. Et c'est vrai que depuis des années, c'est l'influence américaine qui a dominé finalement le monde. Le Japon a aussi commencé à donner son influence.
Oui.
Et c'est vrai que pour l'instant, sur la Chine, c'est énormément au niveau économique et politique et au niveau culturel, un petit peu moins. L'idée, c'est aussi de transmettre tout ça, quoi.
Donc ce magazine, il va être édité par saison, vous dites.
Exactement.
Donc on en aura deux saisons par an ou bien quatre?
Alors là, comme c'est la première année, du coup, on a voulu faire deux éditions. Donc, printemps-été, le premier, puis ensuite automne-hiver, en octobre.
D'accord.
Et puis, l'année prochaine, si on peut, ça serait bien d'en avoir un pour chaque saison.
Eh bien, nous verrons. En tout cas, vous n'êtes pas venue seule. Vous êtes venue, et nous sommes très heureux de le rencontrer, avec une figure de la nouvelle génération chinoise à Paris. On va dire bonjour, Bao Yinjiao.
Bonjour, Clémence.
Alors, vous êtes non pas un Français ayant vécu avec des parents chinois, en France, mais vous êtes chinois, arrivé il y a combien de temps maintenant à Paris ?
13 ans.
Et pourquoi Paris ?
Parce que quand j'ai réussi mon bac, j'ai dit à mon père que je voulais aller en Europe. Mon père, il dit c'est où en Europe ? Il dit plutôt la France. Il m'a demandé pourquoi en France. J'ai pas dit la vérité en fait, parce que je voudrais apprendre la cuisine française en France. Mais comme mon père, il était chef dans sa jeunesse, j'ai grandi dans la cuisine, donc j'aime beaucoup la cuisine. Mais je sais que il a sa passion dans son métier, mais il est interdit de je travaille dans ce métier. Parce qu'il m'a dit toujours, si tu travailles dans ce métier, t'as pas du temps pour ta famille, t'as pas le temps pour s'amuser, t'as pas le temps pour reposer. Mais j'ai vu qu'il travaille toujours comme ça. Il aime bien ce métier. Donc j'ai dit, je vais aller à l'université en France. Parce que j'aime bien la langue française. Il dit, oui, bon, tu peux aller, je t'aide. Et quand j'ai réussi l'examen de la langue française, j'ai dit à mon père, j'ai dit, je vais aller à l'école de la cuisine. Quand il a entendu, il était fâché. Il dit, non, c'est impossible. On a un chef dans la famille, c'est tout. Ça suffit. Du coup, j'ai discuté avec mon père. Enfin, on était d'accord que, tout d'abord, je vais à l'université. Et quand j'ai réussi mes études, si j'ai encore envie d'aller à l'école de la cuisine française, bon, je peux aller. Mais en attendant, j'ai testé quelques-uns restaurants chinois. Je me sens que c'est pas très bon. Il y a pas beaucoup de bons restaurants chinois à Paris, même en Europe. J'ai voyagé un peu. Je me dis, comme j'aime bien la cuisine, pourquoi pas, je montre un vraiment bon restaurant chinois pour montrer aux clientèles européennes qu'est-ce que c'est la bonne cuisine chinoise.
De quoi on
chinoise.
Parle quand on parle de cuisine chinoise? Quels sont ces goûts-là?
C'est le goût de ma ville. C'est le goût de souvenirs, en fait. C'est le goût de la famille, c'est le goût de mon père. C'est le blé, c'est le vinaigre, c'est piment. Voilà.
Et votre ville s'appelle comment?
Xi'an. C'est une autre raison pourquoi je voudrais montrer un restaurant de Xi'an. On est le départ de la route de la soie, on a le quartier de Mousquet. Avant, on était la plus grande ville dans le monde. On est la première ville qui a eu 1 million d'habitants. On a mélangé beaucoup de cultures. J'ai fier de ma ville, mais il y a très peu de monde qui connaît Xi'an. Comme Pékin, c'est le centre de politique. Shanghai, c'est le centre économique. Xi'an, c'est le centre culturel chinoise, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bao Yan, il n'est pas par hasard, en fait, dans votre magazine, Céline Chang. C'est parce que vous avez fait un reportage sur les cuisines, les visages des différentes cuisines chinoises à Paris. Et ça vous a conduit, donc, dans plusieurs quartiers de la ville, évidemment, et évidemment aussi chez Bao Yan, qui, en fait, dénote un peu, puisque lui n'a pas ses origines françaises, mais des origines chinoises, est un vrai Chinois à Paris, entre guillemets. Donc, cette culture chinoise, je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur, Céline, parce que sans cette émission et sans cela, je crois que je n'aurais pas découvert, en fait, toute cette histoire de l'immigration de la Chine et des Chinois en France. Si on doit reprendre brièvement, j'ai envie de vous raconter que les premiers sont arrivés un peu avant, à la fin du 19e siècle. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a des 30 000 Chinois que l'on a appelés en renfort pour aller travailler dans les champs parce qu'il manquait de bras. Certains, d'ailleurs, sont allés dans les tranchées. Il y a un accord qui avait été passé entre la Chine et la France, aussi avec les Royaumes-Unis. D'autres arrivées, autres soubresauts de l'histoire, un exil aussi ensuite pour manger, un exil économique, un exil politique. Et donc d'autres migrations, d'autres arrivées dans les années 70. Et là, on a des quartiers entiers qui se créent. On a Belleville, on a Arts et Métiers, où sont arrivés les premiers Chinois. D'ailleurs, ils travaillaient chez des marchands en maroquinerie, beaucoup.
Oui, mais alors, mon grand-père c'est avait une maroquinerie. Exactement.
Originaire de
Wenzhou.
De Wenzhou.
Exactement.
Où se situe d'ailleurs, il y a deux régions phares de l'immigration chinoise en France, c'est Wenzhou et
Qingtian,
qui étaient des marchands également.
C'est ça.
Et ensuite, on a donc les années 70, le 13e, les tours érigées et le supermarché Tang Frère.
Complètement.
Avec un approvisionnement. Et là, on a la grande confusion des cuisines.
Oui.
Et la grande confusion parce qu'il y a, en même temps que cette émigration chinoise, une émigration lao, cambodgienne, vietnamienne.
Complètement.
Et donc, la Chine se fond dans l'Asie.
Oui, et cette communauté du 13e, en fait, c'est des personnes d'origine chinoise qui ont ensuite immigré au Cambodge ou immigré au Laos ou immigré au Vietnam. Et donc, en fait, ils ont ces origines chinoises, mais ils ont également vécu dans ces pays d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, sont arrivés en France. Et c'est pour ça que leur cuisine, du coup, en fait, est empreinte, finalement, de leur voyage entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et finalement la France.
Ce qui explique aussi que sur la carte de certains restaurants chinois, on va retrouver des mets qui ne sont absolument pas chinois.
Oui, complètement. Le nem, par exemple.
Typiquement.
C'est ça. Il y a aussi beaucoup de plats cambodgiens qui sont présents dans les restaurants chinois, mais tout ça, c'est lié vraiment à l'histoire de l'immigration de cette population-là.
Alors, vous avez pu rencontrer à Belleville Alex, qui tient son restaurant, lui, de ses parents, donc qui s'appelait Wenzhou, puis ensuite on a chez Alex, mais toujours Wenzhou qui est là, à quelques minutes de Arts et Métiers où s'étaient installés les premiers immigrés chinois,
complètement,
et qui est devenu un quartier totalement chinois. On sort du métro, on a les enseignes, les couleurs, on a l'impression d'être en Chine, en tout cas notre vision française de la Chine.
On a même des marchands de légumes dans les rues. Et ça, c'est génial, c'est vraiment comme en Chine.
Impérial choisi. Alors là, on est dans le sud-est de Paris. Oui. On est dans le 13e arrondissement, autre ambiance. Mais encore, on a un McDonald's avec aussi l'enseigne qui est écrite en chinois. C'est donc ça. Pour nous, Français, c'est la Chine encore. Mais je voudrais vous emmener en fait dans un quartier sur les pieds de la montagne Sainte-Geneviève, du côté de la Sorbonne, où s'est installé l'un des premiers restaurants chinois à Paris et où s'était rendu Stéphane Lagarde.
Mais ça n'a pas bougé depuis 1953.
Des lanternes rouges, une verrière années 30 et des banquettes en moleskine. À part les aboiements d'Eliott, le chien, rien n'a changé. Depuis ce 1er mai 1953 où le grand-père Wang a décidé d'ouvrir ce céleste empire de la montagne Sainte-Geneviève. Un établissement mémoire des pionniers de la cuisine chinoise en France, François Wang, son fils.
Ce sont les premiers restaurateurs chinois qui ont adapté la cuisine chinoise au goût français. Ça veut dire qu'on a, à cette époque, on a beaucoup de plats que les Chinois ne connaissaient pas. Par exemple, les crevettes en beignet. En Chine, ça n'existe pas.
Par la suite, il a fallu inventer. Monsieur Wang crée notamment la fameuse soupe de boulettes de viande hachée battue avec du blanc d'œuf dans un bouillon de champignons noirs. Encore à la carte aujourd'hui au numéro 43, comme le numéro 34 d'ailleurs, le fameux...
Pauvre rôti sous sucré.
Voilà le plat qui a été inventé par mon père. En fait, le porc n'est pas rôti. Il est frit d'abord en morceaux, ensuite on le coupe en lamelles et après on rajoute la sauce. Il n'y a pas de gras, c'est le filet du porc. Les enfants adorent ce plat.
Cette petite musique du hachoir, Jean-Tuan la connaît par cœur. L'auteur des Mémoires chinoises, paru aux éditions CLC, est un habitué des lieux.
C'était un des restaurants que nous fréquentions en famille du vivant de mon père. Et on venait régulièrement les dimanches. Et nous aidions, avant que le service ne commence, tous les compatriotes chinois à préparer les raviolis qui demandent beaucoup de travail de main-d'œuvre.
Les raviolis maison du dimanche, pour lesquels des dizaines et des dizaines de passionnés étaient prêts à faire la queue dans les années 60 et 70, quand sont arrivés les cuisiniers de Hong Kong.
Crevettes au grain noir. Port au chevillon de Paris.
Ça, c'est un plat qui a été apporté par les cuisiniers de Hong Kong. Tou si xia. Tou si, c'est les grains noirs. Xia, c'est les crevettes. D'après ce que je crois, les crevettes au grain noir viennent du Sichuan.
Le grain noir, c'est le poivre du Sichuan ?
Pas du tout. Ce sont les graines de soja.
Et on fait beaucoup de choses avec des graines. Prenez du sésame, par exemple, et des pommes au caramel. Jean-Tuan.
Il faut une pomme moelleuse que l'on trempe dans un caramel. Elles sont enveloppées de graines de sésame. Et on les refroidit devant le client dans un bain d'eau dans lequel flottent des glaçons. Ça, c'est excellent. En chinois, c'est pasepingo.
C'est assez difficile à faire. Et en plus, il faut avoir le temps. Les pommes, elles sont au début moelleuses. Et le fait de les mettre dans l'eau glacée, ça les durcit. Et c'est très très bon.
Après une période noire pour la cuisine chinoise dans les années 90, une nouvelle génération est en train de la réinventer à Paris. À l'Empire Céleste, François Wang a lui décidé de passer la main à ses deux filles.
Et cette nouvelle génération, je crois qu'il s'agit de la vôtre, Céline Chang. Et vous aussi, Bao Yan, parce que vous nous ouvrez également le goût de la Chine. Vous l'apportez complètement dans votre établissement. Et je m'amuse d'entendre le sésame dans le reportage à l'Empire Céleste, parce que le sésame, vous en faites usage dans vos restaurants.
Oui, on utilise plutôt les pâtes de sésame pour les salades. Parce que dans notre région, on a l'habitude de manger les genres de nouilles ou salades avec des pâtes sésame, un peu de vinaigre, un peu de l'ail et huile pimentée de notre région. Voilà, c'est un goût vraiment spécial de notre région. Donc je voudrais présenter un peu les saveurs différents pour les clientèles européennes.
Donc voilà. Là, pour le coup, quand on vient chez vous, on est vraiment dans ce goût-là qu'on ignorait jusqu'à présent, j'ai presque envie de dire. Mais vous, vous êtes partisane, justement, Céline, de donner à goûter la Chine.
Oui.
Dans vos restaurants.
Oui, en fait, la Chine, c'est limite un continent en termes de taille.
Oui, c'est ça, c'est la Chine, les cuisines chinoises. Ouais. 8 régions, 8 cuisines, rien à voir du nord au sud.
C'est exactement ça. Et du coup, en effet, la région de Chine a sa propre spécificité, en fait, et chaque région, en fait, a ses propres goûts, ses propres saveurs, et puis des ingrédients phares. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu faire, en tout cas, à Gros Bao, c'était présenter un petit peu un panorama de plats traditionnels, mais qui viennent de régions différentes, parce que ça permet aussi de raconter un peu une histoire et de faire rentrer en fait dans la cuisine chinoise à travers ces plats un peu iconiques. Et en effet, vers Shanghai, les saveurs sont beaucoup plus douces. On est plutôt sur du sucré doux. Dans le Sichuan, c'est très pimenté avec le poivre du Sichuan qui paralyse la langue. Et du coup, finalement, chaque région a ses spécificités. Je pense que c'est important aussi de les partager.
Du coup, vous pouvez goûter la ville de Xi'an, en tout cas cette région-là, chez Baoyan. Et du coup, est-ce que vous vous en inspirez? Est-ce que c'est un travail en commun qui se fait ensuite?
Alors moi, je trouve que sur la scène culinaire chinoise parisienne, c'est hyper intéressant parce qu'il y a la taverne de Zhao qui se spécialise dans la cuisine du Xi'an. Et c'est vraiment les icônes sur cette cuisine-là. Ensuite, il y a d'autres restaurants qui sont plutôt spécialisés dans le Sichuan. Il y a d'autres restaurants spécialisés dans les fondues chinoises et c'est aussi une manière de consommer. Voilà, il y a des restaurants autour plutôt de Shanghai et des raviolis. Donc, je trouve que dans le panorama parisien, il y a quand même des restos qui commencent à se spécialiser dans des cuisines très spécifiques et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun est très fort dans sa cuisine et donc ça montre... il y a quand même un panorama de la Chine dans Paris. Ça, c'est hyper bien.
On peut goûter la Chine dans
Paris. Canton, c'est plutôt dans le 13e, par exemple.
D'accord, bon, on va découvrir.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
In the Mood for Love de Shigeru Umebayashi, bande originale du film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, temps suspendu bien sûr, mais bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, les papilles en Chine, les pieds à Paris et dans nos mains, les pages du magazine Titié, saison de la Bao Family dont Céline Cheung est la fondatrice, Bao Family, où la culture chinoise a savouré, à regarder, à écouter, découvrir. Et à côté d'elle, le fondateur du groupe Jiao, Bao Yan Jiao, un premier restaurant, une taverne,
ouverte sur le côté du canal Saint-Martin, pas tellement loin de chez vous, du coup, Céline.
Oui, on est voisins.
À côté de Gros-Bao.
2-3 minutes en absolu.
La taverne de Diao. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on découvre depuis le début de cette émission, c'est que la Chine est indéniablement votre point commun. Vous avez des trajectoires qui même se rejoignent avec des histoires, quoique différentes en termes de géographie, parce que vous aussi, vos parents n'étaient pas spécialement favorables à une carrière culinaire. Votre père, Xian, était chef, le seul chef, et ça lui allait très bien comme ça. Et cependant, vous avez tous les deux des trajectoires qui se rejoignent, avec une envie aussi, qui est celle de dépoussiérer le regard et la cuisine chinoise en France. Vous, parce que vous l'avez découverte en arrivant à Paris, et Céline, parce que vous êtes originaire de cette culture, et c'est important pour vous d'en donner une image dynamique, énergique, telle qu'elle est, en fait, fidèle à sa réalité aujourd'hui. Yann, quand vous êtes arrivée à Paris, vous nous avez raconté quel goût avait la cuisine chinoise que vous avez découverte dans ces restaurants. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas très bons, mais alors qu'est-ce que vous avez goûté et où êtes-vous allé?
Quand j'étais dans un restaurant chinois, quand j'ai lu le menu, je ne connais pas du tout le plat.
Aucun plat.
Aucun plat. Enfin, c'est un peu bizarre. Et après, j'ai commandé les nems. J'ai goûté les nems, ça va, mais je ne connais pas du tout.
Vous êtes parti au Vietnam. Ensuite, une salade de papaye au Cambodge.
Et le riz cantonais. Je dis, qu'est-ce que c'est le riz cantonais? Parce que si je le traduis, c'est le riz de Canton. Mais en Chine, on n'a pas ce plat. Quand j'ai goûté, j'ai trouvé que, ah voilà, c'est le riz sauté avec les œufs et petits pois, jambon. Ce plat en Chine, c'est un plat de la famille. C'est plutôt la maman qui saute avec un peu de tout. C'est le riz de la veille. Mais ça ne s'appelle pas du tout du riz cantonais.
Donc une surprise, donc des plats que vous ne connaissiez pas et une cuisine finalement assez familiale et pas telle qu'on pourrait la servir dans des restaurants en Chine.
Non, des plats, on ne sert pas en Chine. Comme les poulets à l'ail, je dis qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas du tout. Mais comme Céline, elle dit, c'est un peu de la culture mélangée de Vietnam, de Thaïlande et de la Chine. C'est plutôt une création.
C'est rigolo parce que très concrètement, il découvre que sa culture n'est pas connue en France en réalité. Enfin, c'est l'impression qu'on a.
Oui, complètement.
Et vous, est-ce que c'est quelque chose justement avec lequel vous vivez depuis le début et contre lequel vous luttez?
Je pense que je luttais plus contre les choses qui étaient un peu floues ou mélangées. Et notamment, tous les restos en fait n'étaient pas authentiques. Chinois pur, c'était toujours des mélanges entre la Chine, l'Asie du Sud-Est. Et je pense que je luttais pour un peu redonner la vérité, quoi. La Chine, qu'est-ce que c'est? Remettre les choses, en fait, à la bonne place. Et je pense que c'était ça qui était important pour moi. Et je pense qu'il y a vraiment eu un renouveau. Ça fait 10 ans que les choses sont de plus en plus claires sur la scène culinaire parisienne. Et je pense que maintenant, les esprits sont beaucoup plus curieux et savent en fait de plus en plus ce qu'est la cuisine chinoise.
Ils vont être même désireux de découvrir et de goûter.
Complètement.
Grâce à la taverne de Diao, peut-être que certaines personnes vous ont dit, est-ce que vous avez eu des commentaires comme « Ah, je ne pensais pas qu'en Chine, on pouvait manger ça, que c'était ce goût-là ».
Voilà, tout à fait. J'ai parlé souvent à mes clientèles. J'ai dit « Si vous n'aimez pas la cuisine chinoise, c'est pas à votre faute, c'est à la nôtre. Parce que c'est à nous qui vous montre la bonne bouffe et la vraie culture chinoise. Donc c'est à notre faute. Quand ils ont goûté la vraie cuisine chinoise, je pense qu'ils vont aimer. Comme chez Céline et chez moi. Les clientèles, ils l'aiment beaucoup. Ils ramènent leur ami pour présenter. Voilà, ça, c'est un plat vraiment.
C'est l'origine d'ailleurs même de la taverne.
Ouais.
Parce que vous ouvrez la taverne, on est en 2011. Mmh. 3 jours plus tard, le chef, qui était à l'époque critique gastronomique, Bruno Verjus, vient chez vous, goûte, et là, critique, tu veux goûter chinois, mais vraiment de la bonne cuisine chinoise, faut aller à la taverne. Ça fait quoi comme effet quand on a ça comme critique?
C'est une histoire très rigolée. Quand j'ai ouvert juste 3-4 jours, il est venu, il a commandé plein de plats, il a goûté, et après il a demandé notre serveuse, il dit, est-ce que je peux voir votre chef? Je sors de la cuisine, il me regarde, il dit oh, « C'est où ton père ?» J'ai dit « Mon père, il était en Chine. » Je dis « Pourquoi ? C'est toi, tu fais la cuisine ?» Il dit, je dis « Ouais, c'est moi qui fais. » Il ne croit pas, il m'a demandé « T'as quel âge ?» J'ai dit « 24 ans. » « Non, c'est incroyable. » Il dit. Et après, il m'a dit « Bonne continuation, tu vas avoir beaucoup de succès. » Parce que il m'a dit « C'est la cuisine. J'ai attendu depuis 15 ans à Paris. » Maintenant, c'est toi, tu m'as fait des surprises. Je pense que tu vas avoir des succès.
Oui, c'est ça. On enlève tous les lieux communs, tous les clichés, et là, vraiment, on découvre. C'est réellement une découverte. Dans votre restaurant, vous servez notamment des momos. Alors, ça, ce sont des petits pains à base de blé, hein, on est d'accord, comme des sandwichs, en fait. Et les fameuses byang-byang. Spécialité de Monsieur Jiang, du restaurant Junjiang Laowei, qu'a rencontré notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, dans les montagnes du réveil.
Biang biang, c'est le son que cela produit quand on tape les nouilles sur le comptoir. C'est un plat de Xi'an qui a plusieurs centaines d'années. Les nouilles sont aussi larges qu'une ceinture de pantalon. On les prépare avec de la viande fumée hachée, des dés de tomates, des carottes, des légumes verts. Et on ajoute les épices, l'ail, le poivre du Shaanxi. Ça vient de Xi'an.
Et voilà les nouilles biang biang. Donc c'est délicieux, c'est incroyable. C'est comme une ceinture, quoi, voilà.
Oui, elle se distingue comme ça, c'est vraiment une ceinture, c'est très large. Alors vous m'expliquiez, Bao Yin, pendant qu'on écoutait M. Jiang, qu'elle fait un son également quand on la tire, la pâte?
Oui, quand on tire les pâtes et après on tape la table, ça fait le bruit biang biang. C'est pour ça on l'appelle les pâtes biang biang. Dans notre région, il y a un autre nom, ça s'appelle les pâtes de ceinture. Parce que c'est les grosses pâtes, il y a 5 mètres larges et presque 2 mètres longues. Donc on l'appelle les pâtes ceinture aussi.
Et alors ce qui est dingue, c'est que dans votre restaurant, la ceinture se retrouve dans un bol.
Ouais,
enfin... Vous mettez toute la longueur de la ceinture.
Voilà, tout à fait. Comme les clients, ils m'ont demandé, il y a combien de fils dedans? J'ai dit que 2 fils. Ils ne croient pas, ils m'ont dit, c'est un gros bol. J'ai dit, parce que les 2 fils de pâtes, ça fait 4 mètres de long. Donc... Ça, ça va beaucoup.
Comment on mange alors du coup cette biang-biang? Non, parce qu'elle c'est large, ça fait quoi, 5 cm de large, ouais, comme pâte, ouais. Donc comment est-ce qu'on fait pour la manger?
Avec les paquettes.
Mais oui, bien sûr.
Ça paraît simple.
Céline, une spécialité peut-être du Wangju dont vous êtes originaire, que vous êtes fière d'avoir à votre carte?
Je pense que c'est plus dans la cuisson et dans les assaisonnements. Nous, c'est le poisson à la vapeur qu'on a de gros bao, donc vraiment cuit à la vapeur seulement avec du gingembre. Et une petite sauce soja. Et en fait, c'est la simplicité du goût. On met en avant le produit et c'est le poisson frais. Bah, ça, c'est le plat typique en fait que ma mère nous fait tout le temps. J'ai repris là vraiment la recette de ma mère pour le présenter aux clients.
Alors évidemment, il y a ce qui s'est passé avant et il y a aussi un impératif pour les premiers restaurants chinois qui ont dû ouvrir à Paris et qui ont dû du coup adapter aussi leur cuisine peut-être au palais parisien, au palais français, parce que c'est une cuisine qui a des épices, c'est une cuisine qui a des saveurs et des herbes qu'on ne trouvait pas forcément. Les deux personnes que vous avez interviewées chez Alex ou encore à l'Empire Rue Choisy, oui, c'est ce qu'on vous a raconté également?
Oui, alors c'est assez drôle parce que c'est donc chez Alex et Stéphane, en fait, ils ont tous les deux repris les restaurants de leurs parents. Aujourd'hui, ils ont la trentaine comme nous et ils ont hérité en fait de l'héritage familial et d'une carte assez traditionnelle. Et ils se rendaient compte en fait que il y avait des plats de leurs parents qui étaient un petit peu farfelus, des tripes de porc marinées avec par exemple des carrés de sang, voilà. Qui est un plat spécifique de Wenchou, par exemple.
Qui, accessoirement, est une caillette, hein, parce que le carré de sang, c'est bien du sang qu'on fait frire ou qu'on met à la poêle. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver.
Complètement. D'accord. Et c'est vrai que, du coup, c'est des plats qu'ils ont décidé de le maintenir à la carte. Mais c'est vrai qu'il y a tout un discours pour faire comprendre, en fait, ces produits-là. Et finalement, ils se rendaient compte, par exemple, chez Alex, que ce qui marchait le mieux, c'était quand même les choses assez connues, type les nouilles sautées, les aubergines, les raviolis. Donc, en fait, sur leur carte, il y a un espèce de mélange entre ils veulent quand même faire transmettre des plats assez traditionnels, très très chinois, mais ils le twistent un petit peu avec des choses un peu plus accessibles, un peu plus modernes, et du coup on retrouve un peu des cartes mixtes.
Et quand vous leur avez parlé, justement, qu'est-ce qu'ils disent, eux, de cette nouvelle génération dont ils font partie? Est-ce qu'on en est justement à l'aube d'une nouvelle cuisine chinoise, d'une cuisine chinoise à Paris?
Alors, je pense qu'ils sont assez contents qu'il y ait une certaine modernité de cette cuisine-là, et ils sentent qu'il y a un nouveau souffle, un nouvel air, qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont beaucoup plus spécialisés maintenant. Donc on n'est plus sur des cartes très très étendues, on a des spécialités de nouilles, on a des spécialités de bao, des spécialités de ravioli, et c'est vraiment ce qu'ils remarquent et ce qu'ils mettent en avant. Et je crois qu'ils sont à la fois contents parce que ça crée une émulation autour de la cuisine chinoise. Mais eux, ils sont aussi dans une position où ils sont aussi fiers de leur héritage. Ils sont fiers de leur établissement et ils veulent faire perdurer ce qu'ils savent faire en le twistant un petit peu, en le modernisant un petit peu. Mais je crois qu'ils veulent quand même rester ancrés dans ce qu'ils aiment tout en regardant ce qui se fait ailleurs.
En goûtant aussi.
Exactement.
Oui, parce que d'autant qu'ils doivent avoir des clients, parce que ce sont des établissements qui existent depuis le début des années 90, oui. Je crois. Donc, ils ont des clients de 30 ans.
Oui, complètement. Mais ce qu'ils me disaient, c'est que à l'époque, donc ils avaient une clientèle asiatique, enfin chinoise en fait. 95% du restaurant, les clients, c'était des Chinois. D'accord. Et en fait, là, depuis récemment, c'est 50% de Chinois, 50% de Français. L'effervescence en fait de tous ces nouveaux restaurants chinois qui ouvrent, je pense que ça ouvre la porte en fait à des Parisiens qui sont curieux et qui se baladent entre Belleville, le 13e, les restaurants modernes. Et voilà, et du coup, leurs établissements aujourd'hui sont beaucoup plus multiculturels.
Est-ce que vous pensez qu'également les émissions de cuisine, style Top Chef, style les émissions aussi sur Netflix, les chaînes de télévision, dans lesquelles on commence à entendre parler de cuisine chinoise un peu ciblée, bien spécifique.
Oui.
Est-ce que ça aide tout ça à l'ouverture? Parce qu'en fait, c'est qu'une question d'ouverture.
Ah oui, complètement. Alors, je pense que déjà, il y a eu un engouement autour de la cuisine avec ce genre d'émission. Et en effet, un engouement aussi sur le savoir-faire, du coup, lié à tous les pays. Et en effet, grâce à ces émissions et puis à ces séries, bah, le savoir-faire chinois a aussi été mis en valeur. Et je remercie aussi des chefs français, type Adeline Grattard.
Yamcha,
exactement. Adeline, elle a travaillé dans des restaurants à Hong Kong et en fait, sa cuisine, elle est complètement imprégnée de la cuisine chinoise. Elle en a fait un restaurant exceptionnel et ce travail-là de ses chefs contribue aussi à ouvrir les esprits sur la cuisine chinoise.
On parle de cuisine et de gastronomie, c'est ce que vous faites d'ailleurs à la taverne de Jiao, c'est que vous faites de la très bonne cuisine de Xi'an.
Voilà. Oui, sauf dans notre restaurant, on fait les autres choses. Comme on travaille avec Food Market, on organise le Nouvel An chinois.
Alors Food Market, c'est un rendez-vous, c'est une fois par an ou c'est plusieurs fois par an?
Avant qu'on a eu le Covid, c'est deux fois par mois et qu'on travaille les éditions limites pour Nouvel An chinois. C'est pendant Nouvel An chinois. On organise 20 restaurants de chaque année, enfin de presque toutes les provinces chinoises. Il y a les restaurants qui font le fondue chinois, on fait les momos, il y a quelqu'un qui fait les pâtes.
Ah donc
les...
vous avez répertorié toutes les différentes cuisines chinoises que l'on peut trouver à Paris.
Voilà, c'est dans un street food, voilà, et dans un marché, tu peux trouver presque toutes les cuisines chinoises différentes. Il y a galette chinoise, ravioli chinois, brochette agneau, fondue chinois.
Les canards laqués quand même.
On n'a pas encore eu, parce que canard laqué c'est un plat très technique. On a eu plein de visiteurs. Pendant 3 heures, on a eu 10 000 visiteurs.
Et ça participe justement à la découverte aussi de la cuisine chinoise.
Complètement.
Ouais. Et de la scène parisienne.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Yeah.
California Dreamin', les Mamas and Papas sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde, un autre film de Wong Kar-wai et Céline Maïdé. C'est Chungking Express, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Une chanson que l'on garde en tête. Nous sommes à Paris, la tête en Chine et les mains donc dans le magazine Tout Frais. Titié de c'est Céline Chung, dont les pages s'apprêtent à éclore dans les librairies puisqu'il sera disponible à partir du 9 juin, en même temps que la réouverture des restaurants. Donc cette cuisine chinoise-là, est-ce que ces différents visages sont en train de se découvrir? Et vous avez des gens dans vos restaurants qui viennent vous voir en vous disant, est-ce que si je veux goûter ça plus particulièrement, où est-ce que tu me conseilles d'aller? Dans vos recherches pour les différents plats également à Gros Bao, Céline Chung?
Alors, c'est vrai que nous, nos clients nous posent des questions. Ah, du coup, ils nous demandent, c'est de quelle origine de la Chine vos plats? Et donc ça, c'est génial parce qu'on peut leur expliquer à ce moment-là. Et donc, il y a vraiment des questions, c'est de la cuisine du Sud, de la cuisine du Nord. Et donc, du coup, c'est des gens qui commencent à avoir conscience de tout ça et des gens qui sont curieux. Et après, ils nous posent souvent des questions, où est-ce que je peux manger d'autres restaurants bons chinois? Et nous, souvent, on réoriente aussi avec
chez côté du canal.
Exactement. Et non, je trouve qu'il y a une vraie curiosité, c'est hyper agréable.
Mais ça, c'est magique d'entendre de quelle région. Ça veut dire que ça y est, le pas est passé. On n'est plus la Chine, mais région, voire même à l'intérieur des régions.
Ah oui, complètement. Ah oui, mais il y a vraiment un switch qui s'est fait et c'est exceptionnel.
Moi, je dois vous dire que la cuisine chinoise, pour moi, c'est une claque de bonheur. Je vous raconte. C'est l'hiver et tout, je vais en reportage et je vais rue du Faubourg Saint-Honoré pour la première fois, il fait froid, je rentre dans ce restaurant avec qui j'ai rendez-vous quand même avec Jack Chou, vous connaissez? Autour du Yangtze?
Ouais.
Oui, exactement.
Et donc Jack m'assoit et donc me dit pour la carte, voilà ce qu'il faut pour goûter la Chine.
Ça, c'est obligatoire. Le xiaolongbao, ce sont des brioches shanghaïennes de Jiangsu, Shanghai, surtout dedans les jus. C'est la spécialité.
C'est hyper bon. En fait, c'est délicat.
Même le matin, le petit déjeuner, on le mange. À midi, à déjeuner, on mange aussi. Le soir aussi. Parce qu'il n'y a pas de différence.
D'accord.
Parce qu'en Chine, on mange tout le temps.
Alors ça, nous sommes devant...
C'est soupe de travers de porc. C'est un plat traditionnel de Shanghai. C'est très populaire. Il y a des nœuds de tofu, un pousse de bambou, des travers de porc.
C'est des nœuds de tofu, ça?
Oui.
Pâte de tofu très fine dont on fait un nœud?
Oui, c'est ça.
C'est trop bon.
Ce qui est fou, c'est que le bouillon, il est, on dirait presque qu'il est crémeux.
C'est bouillon de poulet. D'accord. On l'a préparé à l'avance. Après, on mélange avec tous les ingrédients. D'accord. Des bambous, des travers de porc, des tofu. Travers de porc, on prépare deux jours à l'avance. Ça donne du goût.
C'est toutes ces saveurs. Hein.
Ah ouais, c'est très différent.
C'est très différent.
Très, il n'y a rien à voir.
Parce que chaque plat chinois, c'est complètement différent. Dans chaque région, on met des épices différentes. Même la façon de cuisson. Comme ça, les textures, on fait mijoter. Les salades, on fait sauter seulement pendant 2 minutes. Il ne faut pas trop cuire. Voilà, sinon ça s'emballe la salade. Tous les bouillons, il faut faire pendant très longtemps aussi. Voilà, sinon, les goûts ne sont pas très riches.
Et est-ce que comme je fais, ça va ou je vais de plat en plat? C'est comme ça qu'il faut faire ou pas?
Comme vous voulez. Voilà.
On fait comme on veut.
On mange tout, on mange
tout. On mange tout le temps, toute la journée. Et on fait comme on veut quand on mange.
Oui.
C'est que je suis au paradis, là, quand même.
Et le paradis, ce jour-là, se trouvait rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le restaurant autour du Yangtze. C'est cette variété aussi, parce qu'on ne sait pas forcément l'appréhender. Quand vos clients arrivent et découvrent les raviolis, les xiaolongbao, c'est des pièges, hein, quand même.
Faire attention au bouillon à l'intérieur.
Faire attention au bouillon qui peut un peu, accessoirement. Ouais. C'est toute une technique pour manger les xiaolongbao. Mais juste, comment est-ce qu'appréhendent tous ces plats complètement nouveaux que vous présentez à Gros Bao?
Oui, alors nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment montrer qu'en Chine, en fait, tous les plats sont à partager. C'est-à-dire que c'est vraiment une manière de consommer. C'est très familial, les tables sont rondes, tous les plats sont au milieu de la table, il n'y a pas d'ordre. En fait, c'est l'ordre de la cuisine. Donc les plats viennent quand ils sont prêts, il n'y a pas d'entrée plat. Enfin, quand c'est prêt, ça sort sur la table. Et en fait, tout le monde pique avec les baguettes. Et en fait, on peut manger des plats, des saveurs, des textures hyper différentes, chaud, froid. C'est vraiment caractéristique de la cuisine chinoise. Et c'est ça qu'on voulait reproduire justement à Gros Bao pour que finalement l'expérience culinaire, c'est bien sûr les plats, mais c'est aussi la manière de le manger. Et ça, on l'explique à chaque personne, ça fait partie de notre expérience. Comme c'était une expérience, un voyage, les gens rentrent dans le jeu très très facilement.
La même chose chez vous, parce qu'il y a la taverne dont on a parlé depuis le début, mais il y a aussi Monsieur Tiao. Vous avez 4 établissements au total, bientôt un 4e qui va ouvrir ses portes.
C'est ça.
Est-ce que cette expérience, c'est également un voyage dans lequel vous emmenez vos clients?
Oui, comme Notre piment, ça vient de notre région, parce que je voudrais avoir des saveurs vraiment originales. Mais des fois, on change un peu, parce que on voudrait montrer qu'est-ce que c'est la nouvelle génération chinoise. On fait les plats traditionnels et on fait les créations aussi. On fait un peu de fusion, des fois.
Est-ce que vous francisez, par exemple, certains plats dont vous pensez que on sera pas en mesure de les apprécier?
Par exemple, comme on a un pot de terre. En Chine, la soupe, ça fait par de la viande et de l'os. Mais comme on a vu que en France, en Europe, il y a beaucoup de végétariens qui voudraient commenter, mais quand ils savent que c'est la soupe de viande, ils peuvent pas manger. Donc, on fait un peu de modification. On fait la soupe par lait de soja. Parce que ça, c'est un autre plat de notre région. Là-bas, c'est lait de soja avec piment et les morceaux de pain dedans. Un peu de légumes, un peu de viande. Donc, j'ai une idée que pour modifier un peu, pour adapter les clientèles. Mais ça change pas beaucoup de saveur. C'est presque la tradition.
Il a quel goût, ce piment?
En fait, le piment, c'est comme le curry. C'est pas tous les piments sont hyper forts. Donc, quand notre clientèle, il a vu, ah, c'est rouge, il a eu peur, je peux pas manger. Il dit, bon, on va tester. Parce que le piment, c'est comme le curry. Il y a des piments qui sont doux, il y a le piment qui sont parfumés, il y a le piment qui sont hyper forts. Voilà. Quand notre clientèle, il a goûté, il aime beaucoup. Il m'a demandé, est-ce que je peux acheter les lulles pimentées?
Est-ce que vous allez faire des cours de cuisine? Même question pour vous, Céline, parce que peut-être qu'on pourrait accéder justement à comment est-ce qu'on fait des nouilles, comment est-ce qu'on fait des biang-biang, par exemple.
Oui, avant, on a travaillé avec des journalistes qu'on partage un peu de recettes, mais on n'a jamais fait les cours sur Internet ou sur place. C'est une bonne idée, peut-être. Dans la future, on peut organiser.
On aimerait bien.
Oui, moi, nous, on a beaucoup de demandes de personnes qui veulent apprendre à faire des bao. Et ils nous demandent si on fait des cours de cuisine. Et peut-être plus tard, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place.
Le bao et le guabao, hein, dim sum dumpling. André Tan.
Nous, on travaille également des guabao, qui sont le petit bun taïwanais que tu manges avec les mains. Et derrière, c'est un terrain de jeu qui est différent, sachant que tu as juste en fait la brioche qui est cuite à vapeur. Du coup, après, derrière, tu vas travailler des cuissons différentes. Tu vas travailler de la viande qui va être braisée. On peut le snacker aussi. Toute une palette qui est un peu différente, alors que là, la ravioli, effectivement, la farce, elle est complètement emprisonnée dedans. Et elle est tout est cuit vapeur, alors que le guabao, tu peux jouer sur différentes cuissons. Nous, on s'amuse à rajouter aussi des légumes à cru pour ajouter un peu d'un jeu de texture. On travaille aussi beaucoup les pickles pour casser avec un peu d'acidité. C'est une palette qui est presque en fait infinie. Le temple de la cuisson vapeur, c'est Hong Kong. Ils vont travailler tout ce qui est dim sum, des petits tapas entre guillemets hongkongais. Principalement manger soit le matin au petit déjeuner ou dans le tea time hongkongais qu'on appelle le yamcha. Et tu as une grande partie de ces snacks là, donc des dim sum, qui sont envoyés vapeur. Tu as une gamme qui est, je sais pas, il doit en exister peut-être une centaine. Tu as une diversité qui est super large. Et là, effectivement, tu ne vas pas que travailler des raviolis, mais tu vas pouvoir travailler aussi des vrais plats, c'est-à-dire de la viande, du poisson également, des légumes. Et en fait, ça se présente dans des paniers en bambou. C'est infini et tout est cuit vapeur. Et Hong Kong, c'est un truc, c'est... Enfin, les gens en mangent énormément.
André Tan, fondateur de Panda Panda, avec trois restaurants, Dumpling Queen, Panda Panda, Tiger Tiger, à Paris toujours. Une nouvelle aussi figure de cette cuisine chinoise parisienne, Céline Chang. Ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine Titier, on pourra aussi trouver un city guide.
Oui.
Et ce n'est pas un hasard.
C'est pas un hasard parce que la carte, finalement, des restaurants, elle est énormément inspirée de mes voyages. Et moi, avant d'ouvrir Petit Bao, j'avais voyagé à travers toute la Chine. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte des différentes identités culinaires. Et du coup, on avait envie de partager nos adresses préférées des villes qu'on adore. Donc là, on a commencé par Hong Kong, puisque c'est vraiment un temple de la cuisine. Et voilà, dans chacun des numéros, on ira voyager dans une nouvelle ville. Donc on ira à Shanghai, à Xi'an. Je demanderai à Bao Yan les meilleures adresses de restaurants à Xi'an. Et ça permet aussi aux personnes qui auront ce magazine, si jamais ils planifient un voyage en Chine, ils auront des petites adresses.
Hong Kong, qui est aussi un exemple en termes de décoration, je crois.
Ah oui, bah ah. Oui. Gros Bao, en fait, il y a beaucoup de mobilier qu'on a acheté directement à Hong Kong. Donc toutes les lampes, les 200 lampes qu'on a, dont je les ai achetées chez des boui-boui, des petits marchands, parce qu'en fait c'est des lampes qui sont présentes dans les marchés, dans toutes les boutiques de rue. Et je trouvais ça hyper intéressant de à la fois ramener des éléments hyper significatif de la décoration de rue là-bas et de nous à chaque fois les rendre modernes et de les rendre parisiens.
Mais qu'on soit vraiment dans un voyage, qu'on soit transporté. Ça. Vous, c'est votre cas également, je crois, Bao Yan, pour votre dernière adresse. Vous travaillez avec des architectes chinois?
Ouais, parce que on voudrait vous montrer qu'est-ce que c'est la nouvelle génération chinoise, qu'est-ce que notre coup de la vie. C'est pas que on fait la restauration, on fait que les plats, que la cuisine. On voudrait présenter la nouvelle Chine, la nouvelle culture, la tradition, les fusions, voilà.
Oui, parce qu'elle bouge aussi.
Ouais, comme notre décoration, c'est un peu mélangé. On a les éléments très très traditionnels, mais on a un style français aussi.
C'est un immense message d'amour à la Chine, en fait, tous les deux, ce que vous envoyez.
En fait, c'est ça. De toute façon, la cuisine, c'est de l'amour. Hein.
Mais ce qui est génial, c'est la cuisine, mais c'est vraiment la culture. On a vraiment des pans de la culture, parce que il y a également l'architecture, les artistes, le mobilier. Il y a également tout un article sur le bleu de travail chinois, les esprits, les textiles, la mode, les sons, les musiques, les cinémas. C'est vraiment goûter la Chine dans tous ses aspects. Alors goûtons-la, juste avant de terminer cette émission, avec un ingrédient et un ustensile.
Moi, j'ai amené un panier vapeur. Ah. Là, on cuit nos bao. Et en fait,
bao, petite brioche, hein, parce que je crois qu'on l'a pas dit. Mais...
Exactement, oui, bao, c'est la petite brioche fourrée. Les chalons bao aussi. Tous les dim sum sont servis dans les paniers bao. Il y a beaucoup de cuisson qui se fait à la vapeur. Et du coup, ce que j'adore avec ce panier, c'est que beaucoup de boui-boui aussi de rue. En fait, il n'y a que des paniers bao et c'est tout. Et je trouve ça hyper réconfortant. Et qui est en plus un produit qui est simple, qui est fait main. C'est artisanal.
C'est du bambou.
C'est du bambou. Et c'est beau, quoi.
Une taille à privilégier, peut-être.
Alors, le 20 cm de diamètre, c'est celui qu'on a. Comme ça, on peut mettre deux grosses brioches dedans. Parce qu'une, c'est jamais assez.
À partager. Et un ingrédient, peut-être, avec vous.
Alors, j'ai pris du gingembre. Ah. Ouais, parce que le gingembre, on en met vraiment dans toutes les sauces, vraiment.
Est-ce que vous avez eu le temps de penser à mon ingrédient et mon ustensile, Baoyen?
Je vous présenterai aussi toujours ce sésame. C'est facile à faire. Vous pouvez trouver chez Ton Frère ou n'importe quel supermarché chinois. Vous mettez deux cuillères de sauce de sésame, un peu de l'eau tempérée, mélange avec de l'eau, et après vous faites un peu de nouilles cuites, vous ajoutez deux cuillères de sauce sésame, mélangez déjà, et un peu de vinaigre, un peu de sauce soja. Ça sera les pâtes froides. Avec un peu de julienne de concombre et un peu de soja. C'est très facile à faire à la maison.
Oh bon, on pourra la mettre sur la page internet du Goût du Monde, alors, cette recette. Quel est l'ustensile?
Pour nous, les gens qui viennent de Xi'an, c'est les grosses paquettes qui fabriquent les pots de xiaolongbao, les pots de ravioli, ou les nouilles, les pâtes. Ça fait par les grosses.
Donc, c'est une grosse baguette assez large, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est rond.
C'est rond.
Ouais, c'est large. Toutes les familles de Xi'an, on a un ou deux.
Vous, votre père vous l'a donné?
Ouais, mon père, il m'a donné une petite et une grosse.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Merci, ce voyage se termine, mais il en faudra d'autres, parce qu'il y a plein de régions en Chine. Et c'est tout le bonheur. Merci beaucoup, Céline Cheng. Merci, Bao Yan, la Bao Family. Le groupe Jiao. Toutes les adresses pour vous retrouver et vous suivre sont sur la page du Goût du Monde et sur les réseaux sociaux. Le Goût du Monde sur Insta, sur Facebook, sur WhatsApp, 336 43 16 15 66. Vous nous racontez votre plat chinois favori. Êtes-vous, comme nous, fan de bao et de momo, de viande effilochée, d'huile pimentée, de parfums et de saveurs? Racontez-nous ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie. Les avez-vous un petit peu goûtés? Cécile Benissi a réalisé et mis en onde ce Goût du Monde. Merci à elle. Et merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. On aime être près de vous chaque jour. C'est le meilleur moyen d'être avec vous. À la semaine prochaine.
Tout à l'heure sur